Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour Parler Temps qui court, qui ouvre un espace de discussion pendant une heure, tous les soirs, et ce soir, c'est avec Jeanne Balibar.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux taper, péter, péter.
Ça y est, puis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume, quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Parlez-temps qui court.
Marie Richeux avec Jeanne Balibar.
Se sentir seul, c'est pire quand on est censé être plusieurs, censé être amis, amoureux ou citoyens d'un même pays. Et si les solitudes sont nombreuses, alors comment on se retrouve ? Comment on retombe amoureux des amoureuses et des amoureux. Amoureux des villes, des copains et amoureux de la politique. Il semble qu'il faille parler plusieurs langues. Être dupe, pourquoi pas, soulever les merveilles et surtout ne plus chasser l'étranger en soi. Dans votre premier long métrage, Jeanne Balibar, celles et ceux qui étaient considérés indésirables et exclus sont désormais ardemment recherchés. Avec toute l'ambiguïté de ce dernier terme. Dans votre film, la municipalité de Montfermeil tente des choses, sous l'élan de sa mairesse, interprétée par Emmanuel Béart, prête à tout risquer sur des poèmes et pour des logements. Votre dernier film est une comédie musicale où autre chose chante, où sous les lumières ennuyeuses des salles de mairie et des couloirs d'hôpitaux, on respire en se touchant. C'est un film de retrouvailles et de traduction. Bonsoir Jeanne Balibar.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue. Merveille à Montfermeil sort en salle ce mercredi. Je dis que pour moi c'est un film de retrouvailles, ce qui est étonnant pour un premier film. J'ai l'impression que c'est un film pas de première fois.
Je sais pas. Retrouvailles. Retrouvailles, ce mot évoque tout de suite pour moi les mots bleus de Bachung. De nos retrouvailles. Et de Christophe, enfin chanté aussi par Christophe, ouais. De réconciliation, je dirais. Peut-être plutôt. Mais, je sais pas pourquoi, là, vous m'inspirez des choses, des choses musicales ou allitératives. Retrouvailles, ça rime aussi avec funérailles. Et donc, c'est plutôt un film pour pas se laisser enterrer, je dirais.
Oui, comme si c'était une première fois, mais qui avait de l'âge un peu.
Ouais, c'est peut-être le début d'une nouvelle vie pour moi, avec de la bouteille.
C'est vrai, une nouvelle vie avec de la bouteille, une nouvelle année avec un peu d'âge, ah ouais.
Bah, peut-être que à partir d'un moment dans un métier, si on le continue, c'est comme ça qu'il faut se le souhaiter, quoi, une nouvelle vie avec de la bouteille, je sais pas.
Vous aimez bien, vous souhaitez des choses, on parlait de ça juste avant de commencer l'émission.
Ouais, en général, je me souhaite jamais rien parce que, enfin, disons que j'ai souvent l'impression que si on formule les rêves, ils ne se réalisent pas. Mais peut-être que c'est faux.
C'est un truc de superstitieuse.
C'est sûrement un truc de superstitieuse, ouais, ça.
En tout cas, je ne sais pas si on souhaite des choses. Moi, je nous souhaite beaucoup de radio et beaucoup de sons. Et je suis très contente de commencer par un son choisi par Valentin Rémy. C'est une archive, vieille archive de 1903. C'est la voix de Sarah Bernard et les mots de Victor Hugo.
Si tu veux, faisons un rêve, mon sang sur deux par trois. Tu m'emmènes, je t'enlève. L'oiseau chante dans les bois. Je suis ton maître et ta foi. Partons, c'est la fin du jour. Mon cheval sera la joie, ton cheval sera la joie. Nous ferons toucher leur tête, les voyages sont s'élever. Nous donnerons à ces bêtes une avoine de baiser. Viens, le bouffon m'enfant, frappe du pied tous les deux. Le mien au fond de mes songes et le tien au fond des cieux. Un bagage est nécessaire, nous emporterons nos vœux, nos bonheurs, notre misère. et la fleur de ses cheveux. Vient le soir, brunit les chaînes, le moineau rit, ce moqueur entend le doux bruit des chaînes que tu m'as mises au cœur. Ce ne sera pas ma faute si les forêts et les monts, en nous voyant côte à côte, me murmurent sans un mot. Viens-toi cendre, je suis ivre. Ouh, les Versailles mouillés, penses-tu que te feras-tu des papillons réveillés? L'envieux oiseau nocturne triste ouvrira son œil rond. Les nymphes penchant leur urne dans les grottes souriront et diront, sommes folles, c'est Léandre avec les roses. En écoutant leurs paroles, nous laissons tomber notre eau. Allons-nous-en par l'Autriche, nous aurons l'aube à nos fronts. Je serai grand et toi riche, puisque nous nous aimerons. Allons-nous-en par la terre, sur nos deux chevaux charmants. Dans l'azur, dans le mystère, dans les éblouissements. Nous entrerons à l'auberge et nous ferons l'hôtelier de ton sourire de vierge, de mon bonjour d'écolier. Tu seras dame et moi comte, viens, mon cœur s'épanouit.
Voilà, je sais pas s'il y a un vœu à faire, c'est Sarah Bernard qui dit Victor Hugo presque en le chantant dans cette archive permise par la BNF, une archive de 1903. C'est très rare de faire entendre des si vieux sons dans cette émission. Cadeau, Jeanne Balibar.
Ouais, merci, hein. Cadeau, en effet. Ouais. Je crois pas qu'elle chante, moi. Je crois que... Justement, elle chante pas du tout, en fait, au sens où on dit aux acteurs ne chante pas, ne chante pas. C'est-à-dire que c'est très très concret la manière dont elle dit le texte, et en même temps, elle fait entendre la prosodie d'une manière hallucinante. Mais c'est pas de la musique, quoi. C'est de la poésie. C'est stupéfiant. Et puis c'est qu'elle se permet là. C'est incroyable, c'est simple en même temps. Et en même temps, on comprend rien. Moi, j'ai rien compris du tout. Hein. Mais vraiment rien de rien. Et j'adore, c'est ça aussi, la poésie au fond. C'est ne rien comprendre et comprendre quand même, quoi. Enfin, ou que ça se passe ailleurs.
C'est pour ça que je trichais un peu avec la légende des siècles de Hugo sous les yeux. Évidemment, ce n'est pas un hasard.
Ah, mais bah, vous oui. avez triché à mort, pas bah, un oui. peu, à mort.
C'était un petit plaisir, mais j'invite ouais. nos auditrices et nos auditeurs à se procurer très facilement la légende des
mais
siècles.
Moi, vous auriez pu me donner une photocopie. Temps, donc, hein.
J'aurais pu commencer comme en ouais. classe, les polycopiers.
Ah ouais. Non, non, c'était très bien de l'entendre comme ça, justement, de faire l'expérience de la musicalité pure.
Parce que j'ai dit que ce film-là, Merveille à Montfermeil, on pouvait l'entendre comme une sorte de comédie musicale, mais où autre chose chante. Pas ouais. les voix chantées, autre chose chante. Pas que quand il y a des poèmes, d'ailleurs.
Ouais, ouais, non, non, absolument. Bah, oui, de toute façon, c'est ça que j'ai voulu faire. Hein. C'est comme vous vous souvenez, il y avait l'autre journal. Bah, ça, c'est une autre comédie musicale. voilà. C'est-à-dire que ce qui chante, c'est aussi, qu'est-ce que vous avez dit? Pas que quoi?
Pas que
les
quand
poèmes.
Y a des poèmes et des
ouais,
chansons.
Ouais, non, c'est tous les registres de langue, toutes les langues. Et puis surtout, allez, allons-y, c'est l'âme. Parce que je pense que c'est ça que j'ai envie d'écouter, moi. C'est les âmes chantantes, hein, où qu'elles soient, quoi.
Et comment on fabrique ça?
Bah, il suffit de regarder. Faites curieusement, pour écouter, il faut voir, il faut regarder, et peut-être l'inverse aussi. Il suffit de regarder, en fait, il suffit de regarder, et là, on voit les âmes chanter. Moi, ça, je crois beaucoup à ça. J'ai un côté mystique. Quand j'étais rentrée au Conservatoire de Paris pour devenir actrice, j'avais eu la chance d'être reçue avec 19 voix sur 20. Et la 20e personne avait dit « Ah non, je vote pas pour cette espèce de mystique. » Et j'ai un côté un peu comme ça, moi.
Ça vous fait encore sourire, cette voix contre?
C'est surtout l'adjectif. C'est surtout, je vais vous dire, en fait, je crois, ce qui me fait sourire, c'est que ça revient toujours, qu'il y a toujours des gens qui, face à moi, disent « Ah non, alors ce genre de gens, alors là, jamais. » Et... Alors évidemment, heureusement, c'est pas tout le monde, mais ça m'amuse que ce soit... Oh ben non, alors, surtout pas.
Comme un truc en bloc avant de savoir, un peu.
Ah non, je crois en bloc face à moi. Mais, Mais pourquoi pas, hein?
Vous l'avez quand même écrit, ce film. Vous avez regardé, certes, et probablement pendant longtemps, et écouté beaucoup. Et puis ensuite, vous l'avez écrit. Ça s'est passé comment, ce moment d'écriture?
J'ai écrit en deux coups de cuillère à peau, c'est incroyable. J'ai beaucoup fait de recherches et tout ça. J'ai, à l'occasion de ces recherches, découvert que la réalité dépassait totalement toutes les idées de fiction que je pouvais avoir et qu'il y avait dans la réalité de Montfermeil et de Clichy-sous-Bois, où je recherchais, où je grenouillais, des choses encore plus délirantes et folles et absurdes que celles que j'avais pu imaginer. Et puis après, en un mois et demi, j'ai écrit 400 pages. Donc après, il a fallu réduire. Voilà. Mais c'est sorti comme ça. Comme ça. Avec un canevas de comédie du remariage qui me donnait une structure quand même assez précise à partir de laquelle je pouvais élaborer, quoi, et m'amuser.
Mais sans vraiment le quitter, c'est un film qui s'ouvre sur une scène de divorce qui ne se prononce pas, avec une avocate qui préfère jouer aux cartes plutôt que d'écouter des gens qui font semblant de ne plus s'aimer, on va dire, et qui se termine sur des gens qui arrêtent de faire semblant de ne plus s'aimer et tombent les masques et s'aiment de nouveau. Si bien Jeanne Balibar que, en fait, ce fil de l'amour, il n'est jamais quitté, qu'il est tout le temps là, dans Merveille à Montfermeil.
Oui, oui, mais ça, c'est parce que je pense que le fil de l'amour, c'est le grand fil merveilleux des comédies du remariage, c'est-à-dire que c'est le seul fil que ces films-là suivent, mais sauf que l'amour doit passer par le regard sur les autres pour pouvoir se régénérer ou s'avouer à nouveau à lui-même. Ou... Voilà, et le regard sur les autres, sans regard sur autrui et sur le monde... L'amour meurt entre deux personnes, en fait.
En tout cas, ce que dit votre film, c'est que même entre deux personnes, ou surtout entre deux personnes, s'insinuent des amours qui sont politiques, des amours qui sont amicaux, des amours qui sont langagiers, des amours qui sont urbains, qu'en réalité, en ne prenant point soin de tous ces amours-là, c'est l'amour entre deux personnes qui tombe.
Ouais, absolument. Bah, c'est-à-dire que, oui, prendre soin... Ma grand-mère, elle disait, une maison, c'est un corps extérieur. Eh ben, un pays, c'est un corps extérieur aussi, en fait. Donc, quand on prend soin de la relation qu'on a là, ici et maintenant, là où on vit, on prend soin de son corps et donc on prend soin de... littéralement ce que ça peut être que faire l'amour, ça j'y crois profondément. Et inversement, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a dans le film un service d'assistance à la satisfaction sexuelle à domicile. Si on prend pas soin de la manière dont on fait l'amour, on peut pas vivre dans le monde, quoi. Alors ça, je pense que c'est urgent de bien faire l'amour.
Et pourtant, à chaque fois que la sexualité débarque dans le débat public, ça fait vriller tout le monde.
Bah ouais, parce que s'ils jouent aussi des choses qui sont pas seulement les guirlandes de fleurs, des peaux qui s'aiment. C'est assez moche cette expression en radio, les peaux qui s'aiment. Non, c'est trop moche. Ouais. Ce qui se joue quand on dit « j'étais dans la peau », c'est bien connu que c'est très tendre et c'est très cruel aussi. Et c'est aussi une dévoration. Donc évidemment que quand ça débarque dans le débat public, tout le monde panique.
Parce que il en est très peu question d'ailleurs, voire pas du tout sous cet angle-là dans Merveille à Montfermeil, Jeanne Balibar, mais quand même en vous écoutant, je me dis, c'est très calme, la manière dont la sexualité existe dans Merveille à Montfermeil, parce qu'il y a cette brigade de deux hommes si tendres qui s'attardent sur les corps amoureux et qui sont comme des anges, comme ça, qui veillent sur la ville à ce que les gens s'aiment. Et c'est tellement loin de la violence qui a déferlé dans les villes au moment de la question du mariage homosexuel, de la violence qui déferle au moment où on touche à ces questions-là. C'est comme si, sans affronter cela frontalement, moi j'y trouvais une sorte de contrepoint possible, quoi. On pourrait prendre les choses de cette manière-là, semble dire votre film.
On pourrait prendre les choses de cette manière-là, quoi.
Bah ouais, c'est-à-dire on pourrait prendre la question des gens qui s'aiment et qui font l'amour, quelle que soit leur sexualité, leur préférence sexuelle, tranquillou.
Ouais, mais on pourrait tout prendre tranquillou, à mon avis. Ce film est un acte qui milite fortement pour le tranquillou. et parce qu'en fait, on pourrait toujours tout regarder autrement. Alors c'est vrai qu'il y a toute cette violence, c'est vrai qu'il y a aussi les violences faites aux femmes et pas seulement les plus facilement criminalisables comme la pédophilie, le féminicide, etc. Mais toutes les autres, jusque et y compris l'abandon que les femmes, que les hommes font des femmes devant la question de l'éducation des enfants, qui est une vraie violence.
Ou des grossesses avant même l'éducation.
Oui, enfin tout, ouais. Donc il y a beaucoup de violences qui circulent, mais il y a aussi beaucoup de possibilités de se réjouir. Par exemple, moi je pense ces deux anges, en effet, comme vous dites, sont très évidemment un couple homosexuel. Je pense que les hétérosexuels de ma génération ont énormément profité de la libération de la parole autour de l'homosexualité. On en profite tous les jours. Il y a quand même des raisons de se réjouir, quoi. Et il y a plein de raisons de se réjouir, mais simplement faut un peu plus les regarder, peut-être. C'est comme une gymnastique, en fait, je pense.
D'où un conseil municipal où la gymnastique, d'abord respiratoire, est reine.
Vive Montfermeil.
Bon,
et vive la France.
Sinon, notre nouvelle politique de temps urbain consiste à justement réduire le temps de travail et le partager par nous tous et pour nous tous. Voilà. C'est-à-dire à la fois une résorption du chômage et en même temps une organisation pour trouver des moments de repos dans le cours du temps. Par exemple, l'instauration de la sieste pour tous. D'emblée, on réduira de moitié le chômage grâce à la Montfermeil International School of Languages.
Nous sommes en charge du service à l'assistance à la satisfaction sexuelle à domicile, le SACHAD.
Notre numéro vert est le 08 65 865 865. Nous sillonnons les rues de la ville
chaque nuit.
Panne, pudeur,
malentendu, dégoût.
Alors, c'est moi qui serai en charge de mettre en relation tous nos administrés avec les gens du voyage afin de familiariser nos administrés avec cette idée, ces pratiques du voyage.
Ce n'est pas commun, Jeanne Balibar, qu'une scène d'exposition de film, puisque c'est quasiment le début de Merveille à Montfermeil, soit une scène de conseil municipal, premier conseil municipal pour Emmanuel Joly, interprété par Emmanuel Béard, mairesse nouvelle de Clichy-Montfermeil, où il se passe ce qu'on entend. C'est-à-dire qu'il se passe quoi pour vous? Qu'est-ce qui se passe dans ce conseil municipal?
C'est pas tout à fait un conseil municipal, c'est plutôt un discours d'investiture, hein, oui, des vœux justement.
On va dire.
Ouais. Bah, il se passe un affrontement en réalité, je pense, mais un affrontement sur le mode contrapuntique, musical, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un chant et un contre-chant. Ou une mélodie et une basse continue. Donc ça s'oppose quand même en musique, ces deux éléments-là. Et ça construit l'espace dans lequel le film va se déployer, quoi.
La basse continue, ce serait quoi? Les habitants?
Oui, c'est les habitants. C'est-à-dire que je pense que les propositions en apparence farfelues, mais d'ailleurs toutes réelles ou quasi, qui sont faites par les élus. Drôle de terme, ça, les élus.
Bon, c'est un terme amoureux.
Ouais, et mystique aussi d'ailleurs.
Évidemment politique.
Et politique, ouais. Ces propositions-là, ce serait la mélodie, quoi. Et sauf que il y a la base, le peuple, la base, comme à la CGT, comme à la SNCF, comme la base de tout, comme la base de le monde va changer de base, hein, de l'international, qui oppose un contrepoint, quoi, qui oppose un contre-champ à ce discours articulé. Et pour moi, c'est ça qui décrit l'espace dans lequel le film va se déployer, c'est-à-dire à la fois le politique est un espace où entrent en conflit des contradictions, et aussi l'amour, c'est-à-dire la place qu'on laisse à l'autre, quoi. Voilà, je dirais ça comme ça. Voilà.
Ouais, bah ça veut dire qu'il se passe beaucoup de choses en fait, ouais, dans cette salle de mairie.
Ouais.
Est-ce que vous diriez que c'est forcément dissonant? Que leur opposition, que la basse continue du peuple, de la basse populaire de cette ville, et des propositions qui leur sont faites, c'est une opposition ou un frottement qui crée forcément de la dissonance.
Oui, je dirais ça. Oui, je dirais ça. Et d'ailleurs, au fond, à la fin du film, ce qu'on a gagné finalement entre cette première scène d'investiture et la scène de fête de la fin du film, c'est les corps, justement. Ce qu'on a gagné, c'est la danse. Et Jérôme Bell, qui est un chorégraphe de réputation internationale, qui s'est mis au service de mon film d'une manière avec une générosité, une inventivité et une finesse aussi dans la discrétion de ses interventions, a proposé des figures chorégraphiques que je trouve merveilleuse, ce que je voulais pas. Dans les films, on voit toujours les gens danser. D'abord, faut savoir comment ça, c'est mon expérience d'actrice aussi qui faisait que je voulais absolument pas tourner la scène de fête comme on fait d'habitude. Parce que d'habitude, c'est un truc monstrueux à tourner, les scènes de fête. C'est-à-dire qu'on vous passe une musique, tout le monde fait un peu se met un peu à danser dessus, puis ensuite on coupe la musique et tout le monde continue à faire semblant de danser pour qu'on puisse enregistrer les dialogues. C'est comme ça que ça se tourne, une scène de fête au cinéma. Et alors ça, moi j'ai ça littéralement en horreur. D'abord, j'ai littéralement en horreur tout ce qui est faire semblant, ça j'aime pas. Enfin, pour moi, c'est contraire à l'idée même de cinéma. Et en plus, je sais pas, enfin c'est affreux à voir, à faire, tout ça. Donc je voulais qu'on danse vraiment et qu'on danse pas qu'on danse pas bêtement, quoi. Donc Jérôme a inventé des choses. Alors, lui, il dit que c'est moi qui ai inventé, mais moi, je crois pas. Je crois que c'est lui de faire danser chaque personne à deux, mais toute seule à la fin. Mais il a inventé des petites astuces comme ça pour faire arriver la danse dans le film, quoi. Donc...
D'ailleurs, vous dites qu'on a gagné les corps dans cette fête de la brioche qui clôt votre film et qui est aussi un moment, on va dire, clou dans la vie municipale. On a gagné les corps, mais on a peut-être aussi gagné une forme de solitude. C'est-à-dire que vous parlez de cette scène très belle où plein d'habitantes et d'habitants de Montfermeil dansent avec une silhouette invisible dans les bras, mais donc seule. Et il me semble qu'on a gagné une autre forme de solitude. C'est quand même un film qui parle beaucoup de ça. Pour moi, il y a une réplique extraordinairement importante d'Emmanuel Béart et Florence Loirecaille côte à côte sur un lit d'hôpital qui se disent « mais en fait, ce qui est dur, ce qui est pire, c'est de se sentir seul quand on devrait être deux, je crois. » Et je l'ai élargi dans l'introduction, Jeanne Balibar, parce que ce qui est dur, c'est de se sentir seul quand on devrait être plusieurs, ouais, quand on est censé être plusieurs. Ouais. Mais à la fin, ils sont seuls, mais peut-être qu'ils se sentent pas seuls.
Ouais. Je suis heureuse de vous entendre dire ça, parce que c'est vrai que c'est ce que j'ai essayé de faire, quoi. C'est-à-dire que ce soit, en fait, contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire, que on est seul ou pas seul, en fait, on est ensemble à être seul, quoi. Un truc comme ça. Disons que c'est.
En tout cas, on est seul, ça c'est sûr.
On est seul.
Mais on peut être ensemble.
Mais de cette solitude, on peut faire une communauté, quoi. Voilà, j'ai un truc un peu comme ça.
Je voudrais qu'on entende la voix d'Emmanuel Parnin, qui va nous parler du son.
J'ai utilisé le son d'abord pour me m'auto-soigner, bien sûr. Donc c'était un petit peu long, hein, un an et demi pour retrouver Louis. Et avec ce que j'avais appris en m'auto-soignant, j'ai voulu l'utiliser pour m'occuper des autres. Donc des gens en difficulté de toutes sortes, des enfants, des adultes, des psychotiques, des autistes. J'ai fait tous les terrains possibles et imaginables dans les hôpitaux et ailleurs. Et là, j'ai appris énormément de choses sur l'humain. J'ai travaillé par raison. résonance osseuse. C'est-à-dire, je jouais et je chantais la même chose que ce que je jouais. Et donc, ça crée une espèce de vibration dans l'os, dans le corps humain, enfin dans le squelette. Et petit à petit, je faisais vraiment des choses à l'instinct. Hein. Et petit à petit, ça s'est amélioré. Et ensuite, j'ai utilisé la même chose avec des cas très très lourds qu'on voit jamais dans la rue de maladies diverses. Et j'avais comme instrument de prédilection la vielle et la harpe, qui sont un peu antinomiques, en sens que la vielle, c'est vraiment quelque chose qui va toucher à l'intérieur du corps. C'est des tripes. Enfin, c'est la terre, c'est la fusion, c'est le chaos, c'est quelque chose de très criant. Et que la harpe, on dit cristallin, donc avec ces deux instruments, selon le cas que j'avais devant moi et la voix. Parce que moi, je servais d'amplificateur avec la voix, c'est-à-dire que je doublais, par exemple, un enfant autiste qui ne peut s'exprimer que par des cris. Moi, j'amplifiais ces cris et je faisais venir d'autres sons. Et il se passait des choses extraordinaires. J'ai été émerveillée de tout ce que le son pouvait procurer. Le son, en fin de compte, c'est le son qui est thérapeute. Le son peut être un carcheur. Il peut aller nettoyer, détruire un blocage, un nœud émotionnel, quelque chose. Ou bien, au contraire, il peut réharmoniser.
Transculture, par les temps qui courent, Marie Richeux avec Jeanne Baliba.
C'est la route Un extrait de son disque Maison Cube d'Emmanuel Parrainin. On l'entendait avant, juste avant, dans une archive, parler de son parcours, de son rapport au son, d'abord pour se soigner elle-même et ensuite utiliser dans la rencontre avec les autres le soin des autres et plein d'autres, passant par des adolescents psychotiques, autistes ou d'autres personnes, j'imagine, qu'elle a trouvé sur son chemin. Vous, comment l'avez-vous trouvé sur votre chemin, Jeanne Balibar?
À part ce disque-là, en fait, Maison Cube, en 1911.
Dans mon autre vie, en 1911.
Ouais, voilà. Je connaissais ce disque et un jour, j'ai lu un article sur son travail de musicothérapeute. Et du coup, j'ai cherché à la rencontrer parce que je m'intéressais à ça. Et voilà, j'avais beaucoup d'admiration pour elle comme chanteuse et comme musicienne. Et donc, quand j'ai appris qu'elle faisait aussi cette pratique de thérapie, j'ai voulu la rencontrer pour moi-même, en fait. Et j'ai travaillé avec elle. Et au fond, si vous voulez, il y a deux Emmanuels qui m'ont permis d'écrire ce film, en fait. C'est que...
C'est vrai que j'y avais pas pensé.
Voilà, ça doit être pour ça que j'ai gardé ce prénom d'Emmanuel pour Emmanuel Béart, parce que il y avait ce sérieux extraordinaire d'Emmanuel Béart avec lequel elle prend la chose publique, en fait, qui permettait toutes les possibilités de comédie, parce que je pense on ne peut être un grand acteur comique que quand on prend presque trop au sérieux ce avec quoi on joue. Et puis il y avait cet autre Emmanuel Parrainin qui m'avait fait découvrir ses respirations, ses soins de soi et de l'autre par le son. Et donc, ils sont en fait à la base de toute l'activité du personnage que je joue dans Merveille à Montfermeil de Joël, quoi. Joël, c'est Emmanuel Parrainin, en fait.
Donc, Joël qui est là, comme vous parliez tout à l'heure, de la basse continue du peuple, des habitants de Montfermeil, de la mélodie, de la parole politique, éventuellement électorale ou programmatique de l'équipe municipale. Et Joël, c'est quoi? C'est une sorte de dièse un peu, c'est une sorte de petit bourdon, de petit trouble. Ouais,
ou alors c'est si vous voulez les notes qui sont pas dans les modalités occidentales, quoi. C'est-à-dire
les quarts de ton.
Toutes ces notes, c'est tous les quarts de ton et c'est aussi le passage entre le bourdon justement de la basse continue et les paroles des chansons, c'est-à-dire c'est ce moment où il y a du langage mais il est pas articulé. Et ça, c'est un truc qui vient de la Commedia dell'arte, en fait, c'est-à-dire comment ça, le grommelot, tout ça, enfin le jeu expressif avec des choses qui sont des sons mais qui sont pas des mots, ça appartient à l'archéologie de la comédie, en fait. Donc je voulais mettre ça dans le film et ça m'a été inspiré par le travail d'Emmanuel Parrainin. Et bon, il y avait un pacte entre Emmanuel et moi qui était un pacte magnifique, c'est que justement on ferait jamais semblant. Donc en fait, toutes les scènes où les habitants de Montfermeil, Clichy-sous-Bois font les exercices avec Joël, en fait, Emmanuel est là dans le décor et c'est elle qui dirige pour de vrai. C'est-à-dire que personne ne fait jamais semblant de faire quelque chose pour se faire du bien.
Tout le monde est vraiment détendu quand on les voit détendus à l'écran, quoi.
Parce que faire semblant, c'est un passeport pour la nullité au cinéma, faut quand même le savoir. Donc moi, je voulais pas exposer les gens qui sont pas des acteurs professionnels à être mauvais, en fait. Faire semblant, c'est être mauvais. Et avec Emmanuel, on voulait que ça ait lieu pour de vrai, cette respiration, en fait. Parce que c'est bien connu que quand on voit quelqu'un bâiller, on bâille. Parce que c'est une respiration qui détend, donc on se détend. Et moi, je voulais qu'il se passe la même chose, en fait, pour les gens dans la salle, quoi. Et je crois que ça marche un peu parce que au montage, je l'ai remarqué que dès qu'ils font... Bah, on le fait aussi en face. Là, j'ai fait exprès de le faire lentement en espérant que tous, derrière vos postes de radio, vous avez pris une grande et profonde et douce respiration.
C'est ça qu'on leur souhaite, en fait, aux gens qui nous écoutent. Tous les gens qui nous écoutent. Une lente et profonde respiration.
Bah c'est vrai qu'on a besoin de respirer quand même, hein, en ce moment.
Est-ce que vous pouvez nous parler de l'autre pacte avec l'autre Emmanuel, Emmanuel Béart?
Ah, le pacte avec Emmanuel Béart, c'était plutôt, je dirais... C'était un don qu'elle m'a fait, plutôt qu'un pacte. C'est-à-dire qu'elle s'est remise entre mes mains, Emmanuel, d'une manière... étourdissante de générosité, quoi. Parce que je l'emmenais... bon, moi, je fais travailler les acteurs selon mes méthodes spéciales, hein, qui sont les méthodes que j'utilise avec moi-même quand je travaille, mais qui sont très spéciales. Et ils se sont vraiment remis tous entre mes mains... ils ont accepté, quoi.
Un petit exemple.
Alors, un petit exemple qui concerne Ramzy, par exemple. Dans la scène avec Monsieur et Madame Brakni, au début du film, où il les reçoit, donc Pôle emploi s'est transformé en PTU, hein, Pôle temps urbain. Il est tout le temps en train de caresser un cahier Clairefontaine. Ça, c'est venu du fait que quand on a mis la scène en place, il a dit « Ah mais c'est magnifique ces cahiers Clairefontaine, c'est tous ceux que j'ai rêvé d'avoir quand j'étais gosse et moi j'avais que les cahiers du supermarché qui sont troués dès qu'on met le stylo dessus. Oh, j'adore ces cahiers de Clairefontaine, ils sont trop doux et tout. » Donc moi je prends une petite chose comme ça qui vient du réel et je repère et je me dis « Voilà. » C'est ça qui va donner son sens à la scène, en fait. Le sens n'est pas préécrit, il vient du hasard. Et donc, je suis archi émue par ça, qu'à chaque fois que je le vois caresser ses cahiers, parce que je dis, c'est aussi cet enfant de l'immigration, comme ceux qu'il a, les gens qu'il a en face de lui, mais qui, par l'amour de l'école, est devenu un employé de la municipalité, par l'amour du cahier Clairefontaine, et on le sait tous que l'amour de l'école, ça passe par l'amour des fournitures scolaires. Et donc après, pendant tout le film, il est tout le temps à caresser la moindre chemise Exaconta. Et ça va même jusqu'au fétichisme presque masturbatoire quand il est seul dans son bureau et tout. Et c'était une ligne de force d'un coup pour ce personnage, mais qui est venue de l'acteur lui-même. Je fais toujours comme ça. Et donc avec Emmanuel, j'ai fait des choses comme ça, mais je l'ai aussi emmené aussi parce que, au fond, ce film... s'appelle Merveille à Montfermeil et c'est une sorte d'Alice au pays des merveilles, mais c'est aussi un film sur la maternité. C'est Mère, M-E-R-E, Veille à Montfermeil, et c'est le film que j'ai fait moi au moment où je l'ai écrit, au moment où mes enfants sont arrivés en première terminale, quoi, sur cette expérience de la maternité. Et donc Emmanuel, elle a aussi ce rôle-là dans le film, donc il fallait que je l'emmène aussi vers des choses que j'avais à dire, moi, de cette expérience-là. Notamment des pétages de plomb, des choses qui sont pas à elle, qui sont à moi, et où elle s'est laissée complètement envahir par mon hystérie, quelque part, hein, ou mon désarroi, et aussi elle s'est laissée... Elle a accepté de proposer des choses de dans la comédie à l'intérieur de choses que je lui proposais qu'elle a complètement explosé. Et je suis contente de voir qu'il y a des gens qui écrivent des opilantes Emmanuel Béart ou vraiment hilarantes et tout parce que ça c'était vraiment un grand abandon, quoi. Donc voilà, je dirais un don ou un abandon plus qu'un pacte.
Vous disiez tout à l'heure, finalement, pour faire rire, il faut prendre très au sérieux, voire trop au sérieux, ce avec quoi l'on joue, ou ce qui se joue. Et ce qui se joue pour Emmanuel Béart ou Emmanuel Joly, maire de Montfermeil, c'est notamment la construction de bâtiments sur la place de la gare, qui ne doivent pas être des bureaux, qui doivent être des logements. C'est très important pour elle, et le fait que peut-être ça prenne une autre direction, ça la fait complètement bugger, ça la rend dingue. Ouais. Ça veut dire aussi... que la chose politique, au sens de l'organisation de la vie des vivants, l'organisation de la vie des vivants ensemble, c'est une chose qu'elle prend vraiment au sérieux, cette femme politique que vous filmez, Jeanne Balibar.
Ah oui, ça, je pense qu'elle prend ça très très à cœur, même. Mais ça, je pense que c'est le cas de la plupart des hommes et des femmes politiques, en fait. Hein. Après, ils peuvent déconner sérieux. Déconner, c'est-à-dire mettre les autres en danger. Ou déconner, se mettre même en danger, ce qui est son cas, hein, à Emmanuel Joly. Mais qui prennent la chose très au sérieux. Moi, ça je le crois absolument. Je suis pas du tout... Je pense pas du tout que c'est des rigolos qui font les choses par-dessus la jambe, hein. Pas du tout. Je suis même contre cette vision des choses. Voilà, donc, oui, quelle est votre question?
Non, c'est juste de constater qu'elle le fait avec sérieux, ouais. Que c'est ça qui parfois la rend drôle, mais c'est aussi ça qui la rend, moi, je trouve assez bouleversante.
Ah oui.
Et qui rend bouleversante l'idée que c'est difficile. Que c'est difficile de faire de la politique, c'est difficile de construire des logements sur la place de la gare quand on voudrait essayer de construire des bureaux qui peut-être ramèneraient plus d'argent.
Ouais.
C'est difficile de faire une école de langues étrangères qui coûte cher quand on nous en donne pas les moyens. C'est difficile de faire de la politique.
Qui pourrait rapporter gros pourtant cette école de langues étrangères parce qu'il y a plein de profs pour toutes ces langues qui sont parlées en France et pourquoi vouloir toujours devenir bilingue avec l'anglais? Ce qui rend intelligent, c'est d'être bilingue, mais avec toutes sortes de langues différentes. Oui, bah elle fait une tentative de suicide hein, dans le film, mais bon, on le sait bien, on le lit dans les journaux régulièrement qu'il y a énormément de mères qui se suicident ou qui veulent pas se représenter, c'est un sujet d'actualité. Mais qui se suicide aussi. Je pense qu'il y a autant de suicides de mères que de suicides de gens chez France Télécom. Le suicide est un arrière-plan de ce film, de toute façon. On en parle aussi de France Télécom et tout ça. Du suicide,
des
quoi, des hôpitaux psychiatriques. Voilà. Je crois que tout le monde danse au bord du gouffre de l'hôpital psychiatrique ou de la mort volontaire. Moi, je pense que ça, c'est la condition humaine.
Pas que dans le film, pas que dans le film.
Non, partout, toujours. Oui, ceux qui savent pas qu'ils font ça, ils sont psychotiques probablement.
Mais ceux qui le savent, ils en souffrent. C'est-à-dire que c'est pas facile de le savoir. Et dans les couloirs de l'hôpital de votre film, Jeanne Balibar, tout le monde le sait. Et tout le monde s'en sauve en se touchant, en s'embrassant, en pleurant un peu. Mais c'est-à-dire en le sachant vraiment.
Heureusement, il y a plus de névrosés que de psychotiques. Donc, presque tout le monde sait ça quand même.
En tout cas, quand il y a quelqu'un qui le sait en face de soi, on peut difficilement faire semblant de ne pas savoir.
Mais je pense que c'est peut-être ça, la comédie, en fait. Enfin, la comédie au sens large, c'est-à-dire le jeu, le théâtre, le cinéma.
Voir le jeu social.
Alors, le jeu social, c'est encore autre chose, à mon avis. Mais non, l'art, le théâtre, le cinéma... Et peut-être même tous les arts, c'est raconter qu'on sait ça, quoi, qu'on danse au bord de la mort.
Vous savez, si j'ai fait qu'un court métrage et deux longs métrages en 10 ans, ce n'est pas uniquement à cause du temps de réflexion. Le temps de réflexion, c'est surtout celui que les événements, pour employer un terme général, m'ont accordé. Parce qu'en fait, le travail même de réflexion sur la religieuse avait été fait en 6 mois. Et que depuis les 4 ans qui se sont écoulés depuis, ont été plutôt du temps passé à essayer de monter l'affaire. Je ne dis pas que ça a été un temps entièrement perdu, parce que dans la mesure où on passe 4 ans à essayer à réfléchir à un projet, ce projet se modifie un petit peu, mais pas profondément. C'est malheureusement davantage les circonstances qu'autre chose qui ont fait que ce très long délai entre un film et l'autre. Moi, je ne crois pas que le temps ait quoi que ce soit à faire avec l'intensité de la réflexion. Enfin, la meilleure preuve m'en semble être justement les films de Jean-Luc Godard. Je crois que Jean-Luc Godard, qui tourne parfois 3 longs métrages par an, réfléchit davantage à ses films que d'autres metteurs en scène qui pourraient ne faire qu'un film tous les 10 ans. Il s'agit de réfléchir bien plutôt que de réfléchir longtemps.
Ça me rend très joyeux, cette archive de 1966 du réalisateur Jacques Rivette, qui peut-être n'a jamais été diffusée. C'était un entretien enregistré donc au festival de 1966. Il s'agit de réfléchir bien, pas forcément de réfléchir ou de se rafraîchir longtemps.
Oui, alors vous avez décidé de me faire pleurer à toutes les minutes de votre émission.
On n'a rien décidé, on est comme vous. On voit ce qui vient. Pourquoi ça vous fait pleurer, Jacques Rivette ?
Ah bah là, d'entendre la voix de Jacques, comme ça tout d'un coup là, alors que je l'ai jamais réentendu depuis, non seulement qu'il est mort, mais même avant qu'il était tombé malade, là je vous avoue que...
Ça fait beaucoup.
Ça fait beaucoup, ouais. Ouais, c'est spécial. C'est spécial. Mais oui, enfin... Moi je pense qu'il aurait même pu dire, il s'agit de... De pas réfléchir du tout, en fait. Je suis toujours étonnée de voir que ce sont les gens qui sont catalogués d'intellectuels, de, etc., etc. Enfin, personnellement, moi, et je me mets dans ce lot aussi, tous les gens en art que j'ai vu être catalogués d'intellectuels machin, bah, pour moi, c'était plutôt des gens qui réfléchissaient jamais. Vous voyez? Je crois que réfléchir au moment où on fait, bah, ça, c'est le cas des gens qui calculent un truc par rapport à l'industrie, en fait. Réfléchir au moment où on tourne, où on joue, ça n'a pas de sens. C'est de la folie. C'est pas possible. Il n'y a pas le temps de réfléchir à ce moment-là. Il faut au contraire être traversé, être emporté. Alors après ce qui sort de soi à ce moment-là reflète aussi des réflexions qu'on a pu avoir quand on était devant la télé ou sous la douche ou je sais pas quoi.
Ou en train de lire.
Oui, n'importe quoi, bien sûr,
C'est peut-être ça que je disais au début, c'est que finalement c'est un film, c'est un premier film, mais c'est un film où il se passe des choses d'il y a longtemps, quoi. Donc où il se joue des choses qui ont eu le temps de sédimenter en vous, Jeanne Balibar.
Alors en fait, c'est surtout que je crois que c'est un film qui en fait est complètement, mais à 100%, 100%, même pas 99%, 100% ancré dans mon expérience d'actrice. Et d'ailleurs, je l'ai toujours pensé comme ça, parce que je me suis dit, nous les acteurs, on représente les gens sur la scène ou dans l'écran. Et donc les hommes politiques, c'est aussi des représentants, quoi. Donc qu'est-ce qu'on peut inventer, fabriquer avec cette question de la représentation, et je l'ai nourrie à 100% de 30 ans d'avoir été sur les plateaux et sur les planches, quoi. D'une pratique concrète. Vous savez, je me souviens que mon père, qui est un philosophe marxiste très sérieux, avait dans les années 70-80 une collection de philosophie aux presses universitaires de France qui s'appelait « Pratique théorique ». Et ben je crois que la seule chose que j'ai héritée de lui dans l'exercice de mon métier, c'est cette idée d'une pratique théorique. C'est-à-dire c'est de la pratique, quoi, mais à l'intérieur de ça, il y a plein d'idées qui s'expriment et qui peuvent s'exprimer que parce qu'on a cette pratique-là. De même que je pense qu'un cordonnier a un savoir à partir de sa position de cordonnier sur tous les aspects de l'existence. Et de même que un malade a un savoir sur la société à partir de sa maladie, ce qu'on a appris avec les années sida.
Qu'est-ce que vous avez appris de marquant depuis votre position de comédienne et d'actrice, Jeanne Balibar ?
Ah mais ça là, il faudrait qu'on parte une semaine en vacances ensemble avec
ou une
un
semaine
micro
de radio,
voilà,
ou
pour faire des émissions
pas, cet été, ou
comme il y
ans,
avait autrefois, il y avait ça à la radio.
Une semaine avec Jeanne Balibar.
Non mais il y avait des gens qui partaient en reportage là, ils partaient hyper longtemps. Comment il s'appelait ce journaliste ?
Parlons-en des gens qui partaient pendant longtemps en reportage.
Ouais. Avec un agra et après ça passait une heure par jour. On traversait l'île de Ré à pied ou je sais pas quoi.
Alors je sais pas, ça peut
X
être là-bas si j'y suis, Daniel Mermet sur France Inter,
ouais, voilà,
ça peut être Travaux
Mermet.
Publics.
Je pensais à Daniel Mermet en fait.
Pays d'ici sur Culture.
Ouais.
Ouais. Donc là, il faudrait tout ça pour vous dire tout ce que j'ai appris à partir de ma position d'actrice. Parce que, en fait, j'ai tout appris. J'ai appris à vivre, à comprendre. Je crois parce que c'est le seul endroit, en fait, où la peur de vivre, la peur de l'autre et tout ça, est devenu quelque chose dont je pouvais me servir, en fait, au lieu que ça m'écrase. Parce que jusqu'à ce que je devienne actrice, ça faisait que m'écraser.
Et ça permet vraiment que, ensuite, sortie du rôle ou des rôles de comédienne et d'actrice, ça ait une autre figure. C'est-à-dire que ça permet qu'une fois revenue dans la vie où on joue plus, on ait moins peur de vivre et moins peur des autres.
Ouais. Mais surtout, par exemple, je veux dire, ça permet d'interpréter le monde. Par exemple, moi, je ne crois pas aux habits. Je ne crois pas que ça existe, les habits. Je crois qu'il y a une seule chose qui existe, c'est les déguisements. Voyez, les costumes, quoi. D'ailleurs, je ne crois pas que la personnalité, ça existe. Je pense qu'il y a une seule chose qui existe, c'est les rôles ou les emplois. Je pourrais vous développer ça, mais c'est ma croyance, quoi.
Bah, vous le faites dans le film avec le personnage porté par Marlène Saldana, dont il est question en permanence de savoir si elle va ôter son costume.
Ouais, et quand elle, à la fin, elle en ôte un, il y en a un autre en dessous. Et je pense, moi d'ailleurs, que sous tous nos costumes, il y a un autre costume, parce que je pense que le corps est lui-même est un costume.
Caillou, caillaus, camienied, ishi colpuri, pedro salhaja. Caillou, caillaus, camienied, ishi colpuri, pedro salhaja. Il cueille des cailloux, c'est un gentil bonnet. Souvent les garçonnets lui lancent des cailloux. On a de la pitié. Que voulez-vous, ce sont les risques du métier, répond-il sans façon. En ville, vous savez, on se prend des pavés. Alors moi j'ai rêvé d'une autre orientation. Mes cailloux sont pavés de bonnes intentions. Caillou, caillaus, camienie, chicolbori, pedro salhaja. Caillou, caillaus, camienie, chicolbori, pedro salhaja.
Le fait d'être isolé, le fait d'habiter dans ces quartiers où on se retrouve entre Français d'origine... moi, pour ma part, je suis d'origine malienne. En tout cas, dans ces quartiers, en tout cas, moi, je prends l'exemple de Montfermeil. Dans ma tour, il y a au moins facile 30, 40 nationalités différentes. Donc, on a des gens qui arrivent de différents endroits à travers le monde, qui ont tous des problèmes différents. On a plein de réfugiés politiques aussi, notamment le quartier de la Forestière. Donc on a des gens qui arrivent du quatre coins du monde, qui ont tous des problèmes. On se retrouve tous regroupés dans ces mêmes quartiers avec 400 problèmes à gérer. Donc c'est pas évident. Et même au niveau, qu'on parle de mixité sociale, etc., etc., dans ces quartiers, il y a zéro mixité, qu'on se retrouve entre gens ici, venus des quatre coins du monde. Et il faut faire avec, il faut gérer. Et c'est pas facile, quoi.
Que répondra ce fou? T'es cinglé, I love you. Qu'il aille jusqu'au bout.
André Mainviel et Ladjli se mélangent très bien. La voix de ce réalisateur des Misérables, il était venu ici à Parler Temps qui court au moment où Les Misérables n'étaient encore qu'un court métrage. C'est devenu un long ensuite et avec la vie qu'on lui connaît, Jeanne Balibar. Mais finalement, il discute très bien puisque Mainviel dans cette chanson agite les mots comme des cailloux et Ladjli dit il faudrait peut-être faire en sorte qu'on s'agite un peu et que de ce mélange ou de ce non-mélange qui existe dans certains endroits des périphéries urbaines, on fasse réel, on fasse acte, on fasse des choses.
Ouais.
Il fait partie de vos remerciements, Jeanne Balibar, dans le générique.
Oui, parce que il m'avait demandé d'être sa marraine pour le court-métrage, Les Misérables, et puis après, on a tourné presque ensemble, et il m'a aidée pour rentrer dans certains milieux, des villes de Clichy-sous-Bois et Montfermeil. Et plus masculin, parce que ce qui est frappant dans ces villes, c'est que c'est très facile de rencontrer les femmes et c'est pas facile de rencontrer les hommes. Donc c'est ça, en fait, l'Hadj, il a été ma porte vers les hommes. Évidemment, toujours un truc merveilleux. Et puis après, du coup, moi, j'ai joué un petit rôle dans son film, La commissaire de police. Non, moi, ce que ça m'inspire de les écouter les deux ensemble, c'est justement cette histoire sur les langues, en fait, parce que, et c'est aussi par rapport à ce que je disais du gromelot, qui est cette langue de la commedia dell'arte. Parce que Mainviel, il travaille aussi sur une forme de scat, en fait, pour essayer de trouver un scat à la française à partir de la pluralité des langues qui est la sienne. Et là, j'y parle de ça aussi beaucoup, de la pluralité des, et en fait, c'est juste, en fait, vous savez, moi, ce que je crois, c'est que on appauvrit exprès. Il y a une politique d'appauvrissement délibéré des populations de banlieue, puisqu'on ne leur fournit pas les choses qu'on fournit aux autres. On fournit pas l'éducation nationale comme on la fournit aux enfants des quartiers privilégiés des centres-villes. On fournit pas les transports publics, donc on les appauvrit littéralement. Et en plus, on prend des gens qui n'ont pas des revenus très élevés et on les appauvrit encore. Et ensuite, on leur reproche de se débrouiller avec cette pauvreté. Mais en fait, en même temps, on les appauvrit comme ça parce que fondamentalement, je pense que les privilégiés savent que tous ces gens qui sont là dans ces quartiers, en réalité, sont beaucoup plus riches qu'eux. Parce qu'ils sont beaucoup plus intelligents. Parce qu'ils sont beaucoup plus multilingues. Et ça, je crois beaucoup, beaucoup à ça. Parce que je crois que le multilinguisme, c'est un truc qui rend incroyablement intelligent.
Et joyeux.
Et donc, vous avez toutes les strates hyper privilégiées de la société qui déboursent des sommes phénoménales pour faire apprendre l'anglais, l'arabe, le chinois, le ceci, le cela à leurs enfants pour les bien les garder parmi les upper class. Parce qu'en fait, ils n'ont qu'une trouille. C'est que ceux qui sont déjà multilingues de naissance hyper facilement à cause de la mondialisation, de l'époque post-coloniale, etc., soient plus forts qu'eux. Et en fait, ils sont plus forts qu'eux. Donc ça, c'est complètement réjouissant et en même temps, c'est la raison pour laquelle on les martyrise.
Merci beaucoup, Jeanne Balibar. Merveille à Montfermeil sort en salle ce mercredi. On va terminer avec PBL, Que des vues, qui fait partie du projet Rap de filles et La Souterraine. Ça nous permet de leur adresser un salut fraternel. PBL, 22 ans de Livry Gargan à retrouver sur La Souterraine, Rap de filles. À la prise de son ce soir, Guillaume Ledieu, à la réalisation Lise-Marie Barré. Par les temps qui courent, c'est Valentin Rémy, Jeanne Aléos, Romain Debec de Lièvre, Lucie Riandet, Louque Vauvillier et Marianne Chassor. C'est aussi une page sur franceculture.fr et un podcast sur toutes les bonnes applis, par exemple celle de Radio France. Dans un instant, c'est le journal.
Minuit à écrire, c'était mon habitude, chanter ma vie plus belle. Pas besoin d'écrire, envoie-moi à l'instru, je vais te montrer c'est qui bébé, mon gars c'est réel. Hey. Ils étaient pas prêts, à vrai dire tu ne l'étais pas non plus. Ouais, ni roule-moi, interprète-le et je leur laisserai le cul. Audi que je dans les veines, poto y'a pas d'excuse sinon on te crève. Pour une meuf toi tu cours, quand c'était rêve tu les laisses en merde. En retour on te boigne, t'es fini, on termine à la fin, on t'enterre, hey. On vise pas la tête, une balle dans la gorge en deux spies, je vais prendre l'air. Beaucoup de haine, beaucoup de peine, beaucoup de haine, beaucoup de peine, beaucoup de haine, beaucoup de peine, beaucoup de haine, beaucoup de haine, beaucoup de peine, beaucoup de haine, beaucoup de peine. Ah, sans jamais comprendre comment tout n'en bavait. Facilement joué par les intérêts, je vais ce qu'il évite. De certains présumés, les hypocrites, je les vois arriver. Malgré les coupures, j'ai dû encaisser. Des idées, y'a ça à donner. Pour y parvenir, y'a pas hésité. Je me sens pressé par la douleur. Supporter mes lourdeurs comme un banqueur. Fidèle à la solitude, j'ai besoin de personne. Pour avancer, faut quelques têtes. Facile à dire quand y'a son père. Frérot jaloux pour des copains. C'est Dieu qui donne selon ton âme. Pépé est dans la maison, c'est sur tes refaits. Les bouts à bois, je les oublie pas. C'est les seuls qu'ils ont. Que en moi, PCB gang, toujours là, paré pour la guérilla. Bouillon énervé, ça envoie du bois.